soir, papa Gaston, est-ce que vous pouvez prier le Seigneur pour nous, s'il vous plaît? Et la sœur Louboula va se préparer à faire la lecture du texte ce soir, dans Ézéchiel 38. On va lire tous les chapitres.
D'accord.
Notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce souffle de vie que tu nous accordes. C'est déjà un grand miracle que nous soyons vivants et que nous nous retrouvions autour de ta parole. Nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu ne veux pas que nous puissions nous plonger dans un état stationnaire, mais que nous puissions aller de l'avant. Voilà pourquoi tu as préparé cette nourriture spirituelle pour tout un chacun de nous et pour tous les membres du groupe que nous croissions au éternel Dieu des armées. Merci pour tout ce que tu vas nous transmettre ce soir. Rends tout un chacun de nous disponible et capable de le mettre en pratique. Et cela est possible qu'avec l'assistance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous nous recommandons entre tes mains, nous recommandons tous les membres qui prendront part à cette méditation entre tes saintes mains, Seigneur, que le Saint-Esprit soit rempli en tout un chacun de nous, afin que cette parole qui va pénétrer en nous trouve de la place disponible, un sol fertile où cette parole va germer et produire des fruits qui te glorifient. Éternel, nous recommandons l'instrument qui t'était choisi ce soir pour nous canaliser entre tes saintes mains. Nous recommandons le pasteur José entre tes mains puissantes, Seigneur, afin que tu lui parles, afin que tu lui diriges, ô Éternel des désarmés, afin que tout ce qu'il va transmettre vienne de toi et que tu le bénisses pour ce temps qu'il a pris pour préparer ce moment. Que tu le bénisses et que tu sois présent dans toutes ses entreprises et dans toute sa famille. Sois loué, sois béni, sois exalté, ô Éternel des désarmés. Partout où ta parole est proclamée, il y a toujours des signes, des prodiges qui s'accomplissent, ô Éternel notre Dieu. Voilà pourquoi nous voulons recommander toutes les familles qui traversent des moments difficiles, Seigneur, qui prendront part à cette méditation, que tu le visites, que là où il y a besoin de guérison, que tu apportes la guérison. Là où il y a des pleurs, Seigneur, que tu essuies leurs larmes afin qu'il y ait la joie. Là où il y a les doutes, les désespoirs, que tu leur rassures, ô Éternel, que toutes les circonstances t'appartiennent, les temps t'appartiennent aussi, et que tu es capable, en un clin d'œil, de transformer la vie de qui que ce soit, ô Éternel, et tu le fais dans la justice et dans l'amour. Seigneur, apporte la joie, la paix, l'unité, la consolation et l'abondance là où les besoins se font sentir. Du reste, Père, que le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix de Golgotha nous couvre afin que toute attaque de l'ennemi, toute distraction de l'ennemi, nous le détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous recommandons notre communication entre tes mains. Nous détruisons toutes les manœuvres du diable qui veulent mettre des parasites. Seigneur, nous le détruisons dans les puissants noms de Jésus-Christ. Parle-nous, quoi que nous avions médité, nous voulons que tu nous parles. Saint-Esprit, nous t'écoutons, nous voici entre tes mains, pour la gloire du Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Merci beaucoup, frère, pour la prière. Nous allons écouter la lecture du texte qui est relativement long ce soir, dans Ézéchiel chapitre 38. Nous allons lire les 23 versets de ce chapitre. Sœur Louboula.
Je vais lire dans la version Louis II. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince des roches, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche et de Meshach et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une bouche à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand bouclier et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre les pays dont les habitants échappés à l'épée auront été assemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. Retirés du milieu du peuple, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras contre une tempête, comme une tempête. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et le nombreux peuple avec toi. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je montrerai contre un pays ouvert, je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure et qui habitent tous dans des villes sans murailles. Il n'y a ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées. Sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et occuper les lieux élevés du pays, Séba et Dédan, les marchands de Tarsis, et tous les lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre les troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dit à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, est-ce toi de qui j'ai parlé jadis, par mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors, pendant des années, que je t'amènerai contre eux. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je les déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont sur la face de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes les montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Parole de l'Éternel.
Merci, ma sœur, pour cette belle lecture. Frères et sœurs, le texte de ce soir, pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, nous avons lu dans Ézéchiel chapitre 38, les 23 versets de ce chapitre au complet. Ce chapitre fait suite à la situation de restauration qui avait été dépeinte dans le chapitre 37, alors que le Seigneur avait amené le prophète Ézéchiel dans une vallée pleine d'ossements, et le Seigneur, par des questions et des réponses avec le prophète, il avait fini par donner la vie à cette multitude d'ossements desséchés dans la vallée, et avait rétabli cette grande armée, cette nation d'Israël. Et le Seigneur montre que de la poussière, il pouvait relever les morts et leur donner la vie, autant spirituellement, autant qu'il peut le faire aussi physiquement. Le Seigneur a protégé Israël, le Seigneur a fait revenir Israël sur son territoire après la déportation. C'est l'idée qui a été dépeinte dans le chapitre 37. Et le Seigneur va conclure ce chapitre-là en présentant des promesses très fermes que le Seigneur tient toujours jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur va dire d'Israël, je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et maintenant, dans le chapitre 38, alors que Israël vit à l'ombre des grands bras de l'Éternel sous sa protection, nous avons ici un peuple dont le chef Gog va aller aussi chercher d'autres nations. En fait, sept nations vont se rassembler. Ils sont bien armés, ils sont bien protégés, ils ont des casques, des chariots, ils ont des épées, ils ont tout ce qu'il faut et ils sont très, très nombreux. Et ils veulent venir attaquer un peuple qui vit pratiquement sans muraille, un peuple qui vit paisiblement, mais un peuple dont l'Éternel est le protecteur. C'est l'image, en fait, de l'Église aussi. C'est l'image de tous ceux, toutes celles qui constituent cette Église. Rappelons-nous que le Seigneur disait à ses disciples, « Je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu de loups. » C'est encore cette image que nous retrouvons ici. On a essayé de retrouver un peu Gog, où est-ce qu'il est. Nous allons revenir là-dessus. Magog, son pays, où est-ce qu'il est situé, beaucoup ne l'ont pas trouvé, mais on pense aussi à ce que l'Apocalypse, chapitre 20, parle de la réalité qui viendra lorsque le Seigneur retournera. Ça veut dire le rassemblement des nations qui veulent se rebeller contre la volonté de Dieu et que le Christ va détruire par le souffle de sa bouche. Nous avons ici cette image, frères et sœurs, pour nous ce soir dans notre méditation. Ceci peut nous rappeler que nous pouvons paraître si faibles, seuls, sans défense. En face de nous, il y a l'ennemi avec toute sa puissance et sa force, mais nous avons avec nous le Dieu d'Israël, le Dieu qui a décidé de nous garder, de nous protégé. Malgré le courroux qui anime, la colère qui anime l'ennemi, Dieu ne pouvait pas être séparé de son peuple qu'il aime et qu'il tient à protéger. C'est ce qui nous est présenté ce soir lorsque nous allons méditer, en nous posant la question de qui ou de quoi ce texte parle-t-il et qu'est-ce que le Seigneur me dit, qu'est-ce que le Seigneur me révèle. Gardons toujours en tête que si nous appartenons à Jésus-Christ, nous sommes ce peuple identifié ici dans le texte à Israël qui vit dans un sol où il n'y a pas de muraille, de protection, et en face il y a un ennemi qui s'est déversé, en tout cas qui veut envahir le peuple, mais un ennemi qui ne pourra rien faire parce que l'Éternel protège et garde son peuple. Voilà pour introduire le texte ce soir dans notre méditation. Je voudrais vous rappeler, le texte étant relativement long, le temps qui nous est imparti doit être respecté afin de permettre le plus possible de frères et de sœurs de faire le partage sur ce que le Seigneur leur met à cœur. Voilà, frères et sœurs, nous avons 2 minutes maximum pour pouvoir partager. Et la parole nous sera toujours donnée autant de fois que nous le pouvons si nous avons encore des choses à partager. Voilà, nous pouvons partager la parole du Seigneur maintenant. Je voudrais donner la parole au pasteur José des États-Unis.
Merci beaucoup, frère pasteur. Bien-aimé, j'aimerais répondre à la question numéro 7 que nous avons l'habitude de dire que pour ce qui est de la vérité que Dieu nous révèle, c'est une question de chaque jour. C'est vrai parce que tout texte de la Bible a un message. Et chacun peut découvrir, en ce qui le concerne, peut découvrir un message pour lui. Alors pour moi, concernant ces textes, je vois que notre Dieu est souverain parce que il peut utiliser n'importe qui pour te punir un peuple ou son peuple. Dieu peut utiliser n'importe qui. Ici, Gog est utilisé par Dieu. Par Dieu, notre Dieu, le Dieu suprême. Donc, nous devons, nous qui sommes chrétiens, vraiment, tout en étant heureux, contents, joyeux d'avoir un tel Dieu, mais aussi d'avoir beaucoup de révérence et même de crainte. Et même de crainte parce que il est le Dieu qui ne demande pas la permission d'une autre personne quand il veut agir en bien ou en mal contre celui qui n'est pas attentif à ta voix. Voilà ce que je peux dire pour le moment en ce qui concerne la vérité que Dieu me révèle. Merci.
Merci, mon frère. Cela peut se voir, il y a au verset 4 cette déclaration de la part du Seigneur qui dit à Gog, je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir, toi et toute ton armée. Et le Seigneur décrit évidemment cette armée qui Apparemment, c'est une armée forte, bien équipée, disciplinée. Mais le Seigneur dit à Gog, je vais t'entraîner. En fait, je vais mettre la main sur toi et te faire sortir. C'est lui qui provoque l'adversité. C'est Dieu qui décide ça. C'est pour cela, le frère a raison de dire, dès le commencement, nous voyons la souveraineté de Dieu qui décide de ce qu'il faut faire. En fait, nous voyons, c'est Dieu qui fait l'histoire. C'est Dieu qui met tous les éléments en place pour que l'histoire, telle que nous la connaissons, telle que nous en avons entendu parler, ait été ce qu'elle est. C'est Dieu qui a mis les éléments en place. Le Seigneur dit, je vais mettre un crochet à tes narines. Je pense que ceux qui connaissent le milieu agricole, comment les bêtes des sommes sont utilisées bien souvent, les vaches, on leur met un crochet au nez. Comme ça, on peut les conduire avec facilité, on peut les manipuler avec facilité. C'est une image que Dieu utilise ici pour nous montrer comment il agit avec les nations. Les nations qui ne le connaissent pas sont toutes sous la conduite et la direction de Dieu. C'est Dieu qui décide. Je suis, comme le pasteur José, je suis réconforté de savoir cela, que c'est Dieu qui fait l'histoire, c'est notre Père qui fait l'histoire, c'est lui qui décide des combats, c'est lui qui met en place les éléments de la vie. Ainsi, je peux me sentir davantage en sécurité parce que c'est mon Père qui a le contrôle de la vie. Dieu n'est pas dépassé par les événements. Le prophète Daniel le disait avec certitude qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. C'est lui qui décide de tout. Les temps, les circonstances, les événements de la vie. C'est lui qui fait l'histoire, c'est lui qui domine sur toute chose, c'est lui qui domine sur le règne des hommes. Et dans ce cas ici, nous pouvons le voir encore avec, nous pouvons le constater évidemment avec sourire et avec certitude. Voilà, nous pouvons passer à la suite de texte. Je peux ajouter dans ce qui va suivre. Je vois qu'il n'y a pas que Gog avec sa nation, son pays, Magog, mais il y a aussi d'autres nations, d'autres peuples qui vont se joindre à Gog. Peut-être que Gog, avec toute son armée, avec la discipline de l'armée, l'équipement, peut-être que tout cela avait eu un certain impact, une influence sur les nations environnantes. Quand on les regarde, on peut voir que ces nations viennent d'un peu partout, autant du Proche-Orient que de l'Afrique, parce qu'on parle de Kouch qui est Éthiopie, on parle de Put qui est Libye. Ces nations qui sont assez éparpillées sur les territoires, sont toutes sous la domination de Gog. Ce qui veut dire que leur rassemblement, la multitude de ce peuple, le verset 6 dit, à la fin, on dit, en fait, il y a des peuples nombreux qui sont avec Gog. Le Seigneur va dire, tu vas te préparer, tu vas te tenir prêt, toi et toute la multitude assemblée autour de toi. Et c'est toi qui vas être leur chef. Vous allez venir et vous allez, au fait, le Seigneur utilise une image naturelle. Ça va être comme un nuage qui va couvrir les lieux où se trouve Israël. Mais on voit cette grande force, on voit cette colère qui anime tout ce peuple. Il y en a à peu près 7. Et on voit de l'autre côté un autre peuple qui vit paisiblement, dont les villes ne sont même pas protégées. Il n'y a pas de murailles. Les villes ne sont pas fortifiées. Ils vivent paisiblement, tout simplement parce que c'est un peuple qui a appris à faire confiance à l'Éternel. Cette image me touche beaucoup, frères et sœurs, dans la mesure où je me dis, lorsque je considère l'ennemi, notre ennemi, le diable, humainement, personnellement, nous ne pouvons rien contre lui. Il est plus fort que nous. Nous ne pouvons même pas nous tenir devant lui tellement qu'il est intelligent, malin, fort par rapport à nous. Mais quand je vois ce que Dieu a fait de nous, ce que Dieu a fait de toi, si fragile, si frêle, incapable de te défendre toi-même, et je disais dans l'introduction que le Seigneur a donné, il disait à ses disciples, je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu de loups. C'est encore une image très forte. On sait que un agneau ne peut pas, en tout cas, résister devant un loup. Il sera facilement dépecé. Mais le Seigneur veille toujours sur son peuple. Suis-je aujourd'hui acculé par des problèmes, des difficultés? Est-ce que je ressens comme si je suis totalement anéanti, je suis si fragile, si frêle? Alors la bonne nouvelle ce soir à travers cette méditation, c'est que j'ai un Père, j'ai un Dieu qui fait l'histoire, qui domine sur les nations, qui domine sur le peuple. J'ai un Dieu qui me protège, qui me couvre. N'est-il pas écrit que le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et s'y trouve hors d'atteinte? Si je cours auprès de lui, je sais que je peux être en sécurité, je peux être en paix. Je vais donner la parole à Papa Cédéo Ama Christine.
Oui, merci Papa José pour la parole. Versets 15 et 16, nous voyons cette armée qui nous donne en fait l'image de comment est-ce que Satan est organisé avec toute sa multitude, parce que Satan, il est organisé avec une grande hiérarchie, avec un patron, avec des généraux, avec des caporaux. Il y a une grande hiérarchie dans l'organisation de Satan. C'est pourquoi le Seigneur parle de principautés, de pouvoir, de puissance de ténèbres, ainsi de suite. Et nous voyons au verset 15 et 16 comment ils viennent juste pour attaquer. Et le Seigneur dit, tu viendras attaquer mon peuple Israël, comme un nuage qui vient couvrir la terre. Et quand le Seigneur dit, tu viens attaquer mon peuple, c'est une façon de dire derrière les lignes que tu viens m'attaquer. Avec toute l'organisation du monde des ténèbres que nous avons aujourd'hui, en tant que peuple de Dieu, cette déclaration nous concerne aussi, dans le sens que quand nous sommes attaqués, c'est le Seigneur qui est attaqué. Et au verset 17, il va dire, « Voici ce que déclare le Seigneur, n'est-ce pas toi que j'ai parlé il y a bien longtemps, pas les prophètes d'Israël, mes serviteurs qui ont prophétisé déjà en ce temps-là, pendant des années que je ferai venir pour les combattre. » Donc, la leçon que je tire, c'est qu'il y a nécessairement encore aujourd'hui des multitudes qui attaquent sous différentes dimensions le peuple de Dieu. Et nous devons être rassurés comme ce peuple est rassuré Que Dieu continue à regarder tous les ennemis de son peuple pour dire, tous ces ennemis-là, ils attaquent mon peuple et c'est moi qui sont en train d'attaquer. Et puis, il va même plus loin pour dire, quand mes actes envers toi, je démontrerai à leurs yeux ma sainteté au Hog. Donc, c'est vraiment Dieu qui s'implique dans tous les combats que son peuple a.
Mm-hmm.
Amen.
Amen. Merci beaucoup, Papa Célé. C'est vrai, dans le verset 14 aussi jusqu'à 16, Israël peut vivre en paix et expérimenter le fruit même de l'obéissance et de confiance en Dieu. Cela suscite la colère de l'ennemi qui se déverse sur lui comme des nuages. Mais le Seigneur reste le protecteur de son peuple. Frères et sœurs, est-ce que vous vous rappelez, lorsqu'Israël se dirigeait vers la terre promise et que la terreur, le Seigneur avait répandu la terreur devant eux, les nations environnantes, céder la place, il y eut un autre roi qui, ayant eu vent de ce que Dieu faisait à travers Israël, a voulu maudire le peuple d'Israël. Ils étaient dans la plaine de Moab lorsque ce roi a voulu acheter à sa cause Balaam, le prophète, et Balaam a voulu maudire le peuple de Dieu. Et plusieurs fois, à plusieurs reprises, lorsqu'il voulait maudire, c'était plutôt des paroles de bénédiction qui sortaient. J'ai encore cette image qui me montre que Israël, paisiblement campé dans la plaine, n'était même pas au courant qu'il y avait une force du mal qui voulait lui jeter des sorts, le Seigneur protégeait le peuple. C'est exactement l'image de ce que nous sommes aujourd'hui en Jésus-Christ. Nous devons, frères et sœurs, nous attacher au Seigneur, parce que en lui, auprès de lui, nous sommes certainement en sécurité. Je vais donner la parole au frère Gaston.
Merci, pasteur, pour la parole. Je suis au verset 13. Je vais lire. Les marchands de Tarsis et tous les lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude? Le pasteur José des États-Unis, en commençant, il a dit que Dieu utilise n'importe qui. Dieu est souverain. Je souhaiterais être utilisé par Dieu en bien, parce que Dieu utilise celui qui est dans le mal, dans sa vision là du mal, il croit qu'il est en train de détruire réellement, mais et pourtant il est en train d'accomplir la gloire de l'Éternel. Que je sois, que je demeure dans les biens et que Dieu m'utilise dans ces biens-là. Il arrive, on lui dit déjà, dès qu'il arrive, les gens lui posent la question, est-il venu pour piller? Quelqu'un dit bien, quand il arrive, les gens disent, il est venu pour sauver, pour apporter la solution. Je suis interpellé par la réputation que je dégage autour de moi, autour de ceux qui me connaissent. Comment est-ce qu'ils me considèrent quand j'arrive? Est-ce qu'ils sont dans la joie de me voir? Ils se sentent en sécurité? Ou quand j'arrive, ils disent, celui-là est venu que pour semer les troubles, pour détruire? La vérité qui me révèle, la vérité que je retiens ici, c'est Dieu nous utilise, Dieu utilise chacun de nous dans ce que nous sommes ancré de faire. C'est rare de voir dans un songe qu'on entende que un frère dans le Seigneur, on l'a vu dans un songe en train d'étrangler un frère ou une sœur. On va utiliser quelqu'un qui est habitué à faire ces choses-là. Que je puisse demeurer dans le Seigneur et que je puisse être sincère avec le Seigneur et je serai utilisé pour être une source de joie partout où je passe. Et quand j'arrive, on sait que c'est un serviteur de Dieu qui est arrivé pour apporter une bonne nouvelle. Amen.
Merci, frère. Papa Thomas, vous avez la parole.
Oui, dans la suite de ce que l'ancien dit, l'ancien Gaston, le peuple de Dieu, nous sommes comme ce peuple d'Israël qui est chétif. Il est décrit ici comme, Israël est décrit ici comme un peuple qui vit tranquillement, mais le pays est ouvert. Et il n'y a pas d'enclos, il n'y a pas de muraille, il n'y a pas de verrou, il n'y a pas de porte. Et je suis touché que le puissant Gog prend d'autres pays avec lui, très fort, avec des épées, avec des fortes armées, avec des peuples puissants et forts et nombreux. Leur projet, c'est venir attaquer ce peuple qui n'a pas de porte, pas de verrou, pas de muraille, qui n'ont rien, des chétifs. Et leur projet, c'est venir prendre les biens, tout, l'or, les cheptels, les biens, tout, un grand bien prendre. C'est ça le projet du méchant. Mais pendant qu'il forme ce projet, Dieu dit qu'il va attaquer Gog et il va l'anéantir. J'apprends dans ce texte que quel que soit le danger dans lequel je me trouve, tant que Dieu est pour moi, qui sera contre moi? C'est comme dans Genèse 15, Dieu a dit à Abraham qui était troublé, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier, je suis ta grande récompense. Dans le Nouveau Testament, il est écrit en Hébreux chapitre 13, 5 à 6, que n'ayons pas l'amour de l'argent, contentez-nous de ce que nous avons, car Dieu lui-même a dit, il va prendre soin de nous, il ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous délaisser, il prendra soin de nous. Que peut me faire un homme? L'Éternel est mon aide. Que Dieu soit notre aide, afin que nous ne puissions pas craindre, quels que soient les plans formés contre nous. Ça ne va rien faire contre nous. Les armes de l'ennemi lancées contre nous vont retomber dans leur propre ventre, les attaquants, même parce que Dieu ne dort pas, il veille sur Israël, nous sommes son peuple. Merci.
Merci, frère. Le prophète disait, le prophète Esaïe disait au peuple confiant en l'Éternel, au peuple fidèle, disait de la part de l'Éternel que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et c'est vraiment le cas de le dire ici. Lorsque nous demeurons dans la confiance à l'Éternel, nous demeurons axés vraiment notre vie centrée sur notre Dieu. L'ennemi peut dire tout ce qu'il veut, peut se rassembler en aussi grand nombre qu'il le voudra. L'Éternel, s'il est de notre côté, rien ne peut nous séparer de sa protection. Merci beaucoup, frère. Papa José, vous avez la parole.
Merci, frère. Je suis encore au verset 11, mais je vais commencer au verset 10. Ce verset nous montre que notre Dieu connaît tout, puisqu'il dit, quand ce moment arrivera, nombreuses idées te viendront à l'esprit et tu élaboreras un projet malfaisant. Le Seigneur dit à Gog tout cela qu'à un moment donné, quand le moment viendra, tu auras des mauvaises pensées, tu auras de mauvais projets, tu vas élaborer de mauvais projets contre un peuple qui n'est pas agressif, comme notre frère Thomas a repris ce qui est au verset 11. C'est un peuple qui n'était pas là pour combattre les autres, puisqu'il n'a même pas de muraille. Donc, c'était un peuple accueillant, si vous voulez. Mais comment avoir de mauvaises pensées contre un peuple pareil? C'est bien sûr les pensées de l'ennemi, parce que l'ennemi, quand il veut faire du mal, il ne regarde pas si tu mérites l'agression. Voilà, c'est ça. Mais ce que je veux souligner ici, c'est bien l'omniscience de Dieu. C'est-à-dire le fait que Dieu a su d'avance. Lui, il connaît tout. Il connaît tout. Il connaît les pensées mauvaises et qui surviendront à Gog. Voilà. Donc, Dieu connaît tout et il laisse faire. Quand Gog va s'armer, va venir avec toute l'équipe, Dieu va les laisser, mais à un moment donné, il va fermer la porte. Il ne va pas écraser ce peuple-là. Donc, il connaît tout. Il connaît les projets des méchants contre les enfants de Dieu. Mais Dieu protège ses enfants malgré tous ces mauvais projets. Merci.
Merci beaucoup, pasteur. C'est vrai, le texte nous apprend non seulement que Dieu est souverain, mais il nous apprend aussi que notre Dieu est omniscient. Le temps du verbe dans ma version, lui, c'est comme 1910, pour le verset 10, c'est le temps du futur. Ça veut dire qu'au moment même où la prophétie est prononcée, ces pensées-là ne sont même pas encore montées au cœur de Gog. Et le Seigneur dit, voici ce qui va arriver dans la suite de temps. Donc on voit, même au verset 8, le Seigneur parle d'ici, que c'est quelque chose qui va arriver dans un avenir lointain, dans la suite des années. C'est pas quelque chose qui arrive demain là. Mais Dieu voit déjà ce que ce roi va penser, va faire des années d'avance. Ça rejoint ce que le roi David dit dans le psaume 139, lorsqu'il présente l'omniscience de Dieu, il dit: l'Éternel, la parole n'est même pas sur ma langue que déjà tu la connais entièrement. Donc notre Dieu, il est omniscient, il sait toutes choses. Non seulement il est souverain, mais il sait aussi toutes choses. Papa Thomas, vous avez encore la parole.
Oui, dans le même verset, le verset 11, il est dit, tu diras dans ton cœur, je monterai contre le pays là. J'attaquerai comme ça. Je fais. Donc ça, ce sont des projets. Ce sont des projets qu'on médite, on planifie. C'est ça la vision. Il y a un objectif qu'on doit atteindre. Il y a un projet, il y a un plan d'action dans le cœur de Gog qu'il va accomplir. Mais je me demande, quels sont les projets que j'ai? Parce que Dieu a des projets dans ma vie. La Bible dit, il connaît les projets qu'il a formés sur moi, projet de paix, de bonheur, me donner l'avenir et l'espérance. C'est bien. Mais quelles sont les pensées que j'ai? Qu'est-ce que je médite dans mon cœur? Parce que c'est de l'abondance du cœur que nous parlons. Qu'est-ce que moi je médite? Qu'est-ce que je dis de Simes? Qu'est-ce que je dis de la conférence en Belgique? Qu'est-ce que j'ai dans le cœur? par rapport à mon Église, par quel projet que je forme par rapport au royaume des cieux, par rapport à ma famille, par rapport à ma vie chrétienne, au ministère auquel Dieu m'a appelé. Qu'est-ce que j'ai dans mon cœur que je formule? Parce qu'on ne peut pas vivre au jour le jour comme ça sans un plan. Ce monsieur-ci avait un plan, mais maléfique. Projet maléfique, verset 10 dit. Mais moi, comme chrétien, qu'est-ce que je médite dans mon cœur? Qu'est-ce que je planifie? Qu'est-ce que je me dis quand j'ai de l'argent ou que de l'argent va venir? Qu'est-ce que je projette par rapport au Seigneur? C'est ce qui me touche ici. Je voudrais formuler des projets nobles selon la pensée de Christ. Je veux que la pensée de Christ soit en moi pour que je formule des projets selon le plan de Dieu dans son royaume. Merci.
Merci frère. Ça, c'est une interpellation dans la mesure où si Dieu voit même les pensées qui au moment présent n'existent pas encore, mais qui vont s'élever dans le cœur de quelqu'un dans les semaines, les mois, les années à venir. Ça veut dire que le Seigneur voit, il voit ce qui est à moi aussi. S'il voit ce qui est dans l'ennemi, ça veut dire qu'il voit ce qui est à moi. D'où le besoin, évidemment, d'avoir des pensées porteuses des fruits pour les intérêts de Dieu, des pensées qui vont dans le sens. Un exemple ici, on rêve d'avoir, de gagner de l'argent. Au fait, qu'est-ce qu'on fait avec cela? Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? C'est vrai qu'on va penser à acheter ceci ou cela pour notre confort à nous, mais celui qui est aussi approuvé de Dieu va penser aussi, évidemment, à financer les activités du Seigneur. Un petit exemple, juste pour appuyer ce que le frère venait de nous dire. Papa José, vous avez la parole. Ça va être la dernière intervention de ce soir.
Ok, merci beaucoup. Je prends le 18e verset. Mais le jour où tu envahiras effectivement Israël, Gog, ma colère se déchaînera, je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Voilà, bien aimé, un verset encourageant. Même si nous sommes entourés par les ennemis, même si on est coincé, presque, mais nous devons savoir que si nous sommes attachés à notre Dieu est un grand rempart pour nous. Puisqu'il dit ici, mais le jour où tu envahiras effectivement Israël, ma colère se déchaînera. Voilà, ce soir et cette nuit, le Seigneur s'adresse à notre ennemi, à nos ennemis. Et lorsque ils vont essayer de nous envahir, lui, notre Dieu, va combattre pour nous. Merci.
Merci beaucoup, pasteur. Je voudrais, pour moi, frères et sœurs, le verset 16 et le verset central pour le texte de ce soir, je trouve aussi en même temps une interpellation pour ma propre vie, j'espère pour la vôtre aussi. Dans ce texte, si nous nous référons au chapitre qui venait de précéder, Dieu restaurait Israël, Dieu faisait revivre Israël, Dieu fait retourner Israël sur son territoire. Israël vit paisiblement. Israël connaît au fait une période de bonheur. Mais en même temps, le Seigneur va susciter un ennemi qui devra aller se diriger contre Israël. C'est ce que le Seigneur dit. Dans ce verset-là, tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Le Seigneur lui dit, dans la suite de jours, je te ferai marcher contre mon pays. C'est Dieu qui fait marcher cet ennemi contre son pays. Mais pourquoi? Quelle est la raison? Qu'est-ce que Dieu poursuit? Est-ce que Dieu déteste son peuple pour susciter un ennemi aussi puissant, aussi fort contre ce peuple si fragile, qui n'est même pas protégé, qui n'a rien, qui n'a aucune armure? Non. La Bible dit, le Seigneur dit, je ferai cela afin que les nations me connaissent. Bien-aimé, c'est là où je trouve une interpellation pour ma vie, peut-être pour ta vie aussi. Si j'aime vraiment le Seigneur, suis-je prêt à ce que le Seigneur se serve de moi, de ma vie, ma petite vie, afin que d'autres le connaissent? Même s'il faut, à ce prix-là, sacrifier la paix dont je bénéficie maintenant. Jusqu'à quel point est-ce que j'aime Dieu pour que je me laisse utiliser par lui pour que d'autres le connaissent, même si c'est au prix de ma propre sécurité. Ça peut être sécurité physique, ça peut être sécurité financière, etc. Je trouve que le Seigneur opère et agit. Encore une fois, nous avons appris ce soir que notre Dieu est souverain. Nous le disons, mais dans ce texte, nous le constatons. Dieu a la main mise sur les nations. Même les nations les plus puissantes aujourd'hui, qui peuvent se déclarer plus puissantes que n'importe qui, le Seigneur a la main mise sur eux. Le Seigneur peut les diriger en mettant à leur nez, à leur museau, un crochet afin de les diriger aussi normalement que possible dans les méandres de la vie. Nous avons appris que Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. Nous avons appris que Dieu est le protecteur de son peuple. Mais nous apprenons aussi que Dieu veut que les nations le connaissent. Et pour cela, le Seigneur suscite même l'adversité afin que par le truchement de son peuple, les nations arrivent à le connaître. Même si son peuple est un peuple qui est disposé, disponible pour être utilisé par Dieu, frères et sœurs, Dieu ne le sacrifiera pas. Dans la suite du texte jusqu'à la fin, nous voyons comment le Seigneur va dire, il décrit dans le moindre détail que lorsque Gog décide alors d'attaquer, le Seigneur se lève et il va appeler l'épée contre lui, il va appeler les éléments même naturels. À la fin, il dit, il va exercer ses jugements contre lui par la peste, par le sang, par une pluie violente, par des pierres, des grêles. Le Seigneur va faire pleuvoir le feu et le soufre sur lui et ses troupes. Tout ce peuple-là va connaître la mort, tout simplement parce qu'ils vont apprendre que ce peuple si petit, si fragile, c'était un peuple qui était sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Ainsi, toutes les nations vont connaître Dieu. Suis-je prêt à ce que le Seigneur se serve de moi pour que les autres le connaissent, pour ses intérêts à lui, et cela même au prix de la paix, même au prix de la vie qu'il m'a donnée, même au prix de bien qu'il a rendu possible pour moi de posséder aujourd'hui. Voilà, frères et sœurs, les réalités autour desquelles notre méditation ce soir a eu lieu. Puisse le Seigneur faire en sorte que ces quelques paroles entendues des uns et des autres nous aident à nous asseoir profondément ancrés dans notre foi, dans la confiance au Seigneur et nous attendre à ce que notre vie soit utilisée par le Seigneur pour ses propres intérêts, sa gloire et pour la paix des autres. Voilà pour ce soir. Demain, nous continuons dans le chapitre 39, nous lirons le verset 1 à 16 et nous aurons les questions 2 et 7 pour nous aider à méditer. Papa Céline, nous avons des annonces. Papa Céline.
Oui, Papa Joseph, merci pour la parole. Juste nous rappeler que le camp biblique est à jour J, 59. Mm-hmm. Pour dire, nous allons vers la ligne droite pour nous retrouver tous ensemble en Belgique, ça c'est un. Deux, nous saluons les frères et sœurs de Massachusetts, Alberta et Québec qui ont médité avec nous. Nous bénissons le Seigneur. Amen.
Mm-hmm. Amen. Merci beaucoup. Pasteur José, pourriez-vous bénir le peuple de Dieu, s'il vous plaît?
Merci. Prions Dieu. Oui, Seigneur, tu mérites ce nom de Dieu. Tu es le Tout-Puissant, le Souverain Maître. Toi, tu as le monde entier dans tes mains. Mm-hmm. Tout l'univers t'appartient. Nous qui vivons sur la terre, et même ceux qui sont sous la terre et sous la mer, sont sous ta garde. C'est toi qui diriges tout. Aujourd'hui, nous avons le soi-disant des grands pays, quand eux, ils décident, ils attaquent, ils tuent, personne ne peut parler. Mais, Seigneur, devant toi, ces pays ne valent rien. Rien du tout. Gog se prenait pour un grand, mais il était sous toi. Il était sous toi, Seigneur. Toi qui parles et le monde bouge. Toi, tu utilises toute la nature. Seigneur, qui est semblable à toi? Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants parce que tu te fais connaître à nous par le Seigneur Jésus. Ce soir, nous sortons la tête haute parce que nous avons appris que nous avons un grand Dieu qui nous protège. On peut avoir des projets malfaisants contre nous. Seigneur, si tu ne dis pas oui, tous ces projets tombent dans l'eau. Mm. Nous avons le devoir de nous attacher à toi, le devoir de te louer, le devoir de lire ta parole, le devoir de te prier à tout moment, pour que nous puissions vraiment arranger notre relation avec toi. Oui, Seigneur, nous sommes humains, nous voulons faire, mais notre humanité nous retient de foi. Nous disons non à cette humanité. Tendons vers toi, prends-nous par la main. Oui, Seigneur, merci. La nuit est là pour nous reposer. Nous sommes dans la joie parce que nous avons la nuit pour nous reposer. Nous pensons à ceux qui n'auront pas le repos à cause de plusieurs raisons. Seigneur, soutiens-les aussi. Et nous pensons surtout à ceux qui souffrent, à ceux qui ne peuvent pas dormir à cause de leur souffrance physique ou morale. Sois avec tes enfants. Que la grâce du Seigneur Jésus et l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent. Sois avec nous tous, dès maintenant et à jamais. Amen.
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 Merci beaucoup, pasteur, pour la prière. Peuple du Seigneur, bonne soirée et à demain.